Nous sommes évidemment tous d'accord qu'il faut maintenant que les choses changent, mais il faut qu'elles changent non pas dans l'anarchie, mais dans un mouvement puissant, organisé, 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 organisé.
Vous êtes sur Alternante FM, voici Nouvelle Donne, Vieille Rengaine. Alternantaises et alternantais, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Nouvelle Donne, Vieille Rengaine. Pour ce 8e numéro, je vous emmène en Inde, plus précisément dans un état de l'Ouest indien, le Gujarat, qui, pendant 12 ans, fut dirigé par Narendra Modi, l'actuel Premier ministre indien, fervent défenseur du néolibéralisme. Préalablement, je vous communiquerai mon sentiment sur l'affaire Goodyear, qui a vu des salariés être condamnés par la justice pour avoir séquestré deux cadres supérieurs de leur entreprise en 2014. Je vous parlerai ensuite de deux livres excellents, qui a priori n'ont pas grand lien ensemble, mais que j'ai choisi de traiter collectivement. Le premier est l'œuvre de la chercheuse nord-américaine Leslie G. Wood et s'intitule « Mater la meute, la militarisation de la gestion policière des manifestations » et c'est paru chez Lux. Le second, sorti en 2014, est dû à Samuel Hayat et titre « 1848, quand la République était révolutionnaire, citoyenneté et représentation », c'est publié par Le Seuil. Après la revue de presse, je vous propose de retrouver notre feuilleton radiophonique sur le capitalisme et les luttes sociales. Le sujet de cet épisode sera très révélateur de la façon dont les libéraux abordent les problématiques sociales. Il concerne les lois sur le travail des enfants au milieu du 19e siècle. Les derniers jours ont été marqués par le regain de tension entre l'Arabie Saoudite et l'Iran suite à l'exécution par Riyad d'un chef religieux chiite, Nimer Bakr al-Nimer, accusé de terrorisme, de sédition, de désobéissance au souverain et de port d'armes. Pour la dynastie des Saouds, qui tient les rênes du pouvoir depuis le milieu du XVIIIe siècle, pour ses adeptes du wahhabisme, ses défenseurs d'un islam rigoriste, les chiites ne sont rien d'autre que des mécréants et des hérétiques. Daesh et les djihadistes de cet acabit vont, eux, plus loin, en proclamant apostats tous ceux qui ne se rallient pas à leur drapeau noir et, joignant le geste à la parole sectaire, ils n'hésitent pas à tuer au nom de la pureté. Le régime des Saouds n'est pas djihadiste, mais salafiste. Le grand mufti d'Arabie Saoudite a ainsi déclaré que les attentats suicides étaient contraires à l'islam et, depuis de nombreuses années, Al-Qaïda est l'ennemi des Saouds. C'est que le djihadisme est en fait une critique radicale et en acte du salafisme incarné par l'État des Saouds, qui, en nouant une alliance stratégique avec les Occidentaux, principalement les Américains, dans le cadre de la guerre en Irak, a permis que des mécréants souillent la terre de Mahomet. Les Saouds ont financé et financent toujours des mouvements wahhabites et salafistes, sectaires, rigoristes, réactionnaires, mais ils s'aperçoivent que ce faisant, ils forment également des militants qui risquent de les critiquer quand ils s'apercevront que les principes fermes se dissolvent vite au contact des nécessités de la politique internationale. Entre le verset et le concret, il y a la plupart du temps des béances. Les chiites ne sont pas massacrés en Arabie Saoudite ni forcés à rejoindre le vrai islam. Ils sont marginalisés politiquement et socialement et réprimés dès qu'ils prétendent sortir de leurs conditions de Saoudiens de seconde zone. marginalisé politiquement en ce sens qu'il n'y a que 4 chiites qui siègent au Parlement sur 150 membres. Marginalisé socialement en ce sens qu'il est quasiment impossible pour un chiite d'entrer dans l'administration. Combien sont-ils ? Oh, on estime qu'ils représentent moins d'un quart de la population totale du pays. Mais ils sont essentiellement concentrés dans l'est du pays, là où coule l'or noir, là, autrement dit, où le pouvoir des Saouds puise sa puissance. La liquidation de Nimer Bakr al-Nimer est un aveu de faiblesse. Elle nous montre un pouvoir de moins en moins sûr de sa force, extérieure autant qu'intérieure. Les Saoudiens n'apprécient guère de voir les Américains remettre les Iraniens dans le jeu diplomatique mondial. Refaire de l'Iran un état normal et non un état terroriste est une mauvaise nouvelle pour eux. Et c'est pourquoi, tout comme le gouvernement israélien, ils dénoncent l'accord autour du nucléaire. La baisse extrêmement forte des recettes pétrolières, liée au développement de l'extraction du gaz de schiste, a obligé le pouvoir saoudien à remettre en question sa politique sociale, autrement dit son achat de la paix sociale à coup de subventions. Si le pays dispose encore de conséquentes réserves financières, il ne peut se permettre de continuer à puiser dans son bas de laine. Pour le FMI, si rien ne change, le pays sera en faillite en 2020. Et qui dit crise économique, dit crise sociale. Frapper Nimer Bakr al-Nimer, c'est également envoyer un message à destination des Saoudiens les plus pauvres, autrement dit des chiites, mais aussi aux 10 millions d'étrangers qui font tourner la machine économique. Restez à votre place, ou le pouvoir vous y remettra par la force. Nouvelle donne vieille rengaine, l'actualité. Le 12 janvier dernier, le tribunal correctionnel d'Amiens a condamné à de lourdes peines 8 salariés de Goodyear qui avaient séquestré 2 cadres supérieurs de leur entreprise en passe d'être liquidés par son principal donneur d'ordre, une multinationale américaine du nom de Titan. 2 jours de séquestration, sans violence physique, sans chemise arrachée. Goodyear n'avait d'ailleurs pas porté plainte dans un souci d'apaisement au moment de signer l'accord de fin de conflit. Nous aurions pu en rester là. La colère ouvrière s'est exprimée avec plus de radicalité que d'ordinaire. L'ordre est revenu, ne soufflons plus sur les braises. Mais non, c'est le parquet qui a décidé de châtier 2 ans après les faits ceux qui avaient osé dépasser les bornes, celles qui séparent le dialogue social de la délinquance en bleu de chauffe. La justice étant indépendante, comme nous le savons tous, nous ne devons pas voir derrière cette décision la main machiavélique d'un pouvoir délégitimé cherchant à faire peur à celles et ceux qui, lassés par sa politique de complaisance envers le patronat, pourraient être amenés à aller au-delà du convenable et à illustrer par les actes que la grève n'est pas une simple suspension du travail mais un acte de guerre, comme le clamait jadis Georges Sorel. La justice est indépendante, elle n'agit pas sur ordre. Dans l'article 30 de la loi du 25 juillet 2013, il est écrit clairement que le ministre de la Justice ne peut adresser au juge aucune instruction dans des affaires individuelles, dont acte. La justice est indépendante, d'accord, mais les juges, eux, ne sont pas hors du temps, ils ont des opinions, des sentiments, des convictions. Ils doivent, j'imagine, considérer comme la ministre du Travail, Myriam El-Khomri, que, je cite, « la séquestration et la violence sont inacceptables et qu'elles ne font pas partie des outils du dialogue social », même si évidemment on peut comprendre, je recite, « la désespérance des salariés qui ont été licenciés ». Le désespéré doit donc savoir raison garder, ou plutôt, le désespéré doit se faire une raison. Confronté à un patron voyou, le désespéré ne doit pas réagir comme un voyou mais faire confiance au dialogue social. Qu'importe si le dialogue social s'apparente à un dialogue de sourds, qu'importe si la multinationale n'en a strictement rien à faire de quelques centaines de prolétaires, puisqu'elle peut les remplacer par d'autres centaines de prolétaires ailleurs sur la planète. Des prolétaires moins chers, plus dociles, du moins durant quelque temps, car il semble bien que les exploités, d'ailleurs, apprennent vite à se battre et à revendiquer. Travailleurs de France, un peu de patience. Quand le patronat ne pourra plus pressurer le pauvre bougre chinois, indien, laotien, vietnamien, bangladeshi, que sais-je encore, à un tarif rentable à ses yeux, il sera bien obligé de revenir chez nous. Je plaisante, of course. Quand une entreprise se relocalise ici, fuyant l'atelier du monde chinois, elle ne le fait qu'au prix d'un fort investissement en machines capables de remplacer le travail humain. Le rêve de tout industriel est d'être à la tête d'une entreprise qui marche sans bipède. Dans le monde de l'entreprise capitaliste, le travailleur est un pion interchangeable qu'on affuble du nom de collaborateur pour flatter son ego et lui faire croire qu'il compte. Mais il ne compte pas, pas humainement, seulement d'un point de vue comptable. Depuis plusieurs années, Les élites sentent bien qu'une fraction de la population refuse de se laisser faire et de passer sous les fourches codines du dialogue social ou du cirque citoyenniste institutionnel où l'important est de participer et de signer à la fin. Cette fraction de la population sait bien que tout cela est une farce. Rappelez-vous les propos de Jacques Oxiette, ancien président du Conseil régional des Pays de la Loire, à propos de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il a mis en place une commission, non pour réexaminer sur le fond le projet, mais pour nous faire comprendre à nous pauvres incultes à quel point nous avions tort de nous y opposer. C'était grotesque autant qu'abject, mais illustrait bien que pour l'oligarchie qui nous gouverne, le dissensus est avant toute chose un problème lié à une mauvaise communication. C'est pour ça qu'elle envoie à ses gardes-chaumes frapper à l'occasion quelques crânes pour y faire entrer de saines idées. Beaucoup de gens sont déboussolés, ne savent plus à quel sein se vouer, deviennent aigris, grégaires, désertent le politique ou applaudissent les bonimenteurs qui leur parlent de grandeur nationale, qui leur désignent du doigt les coupables, la cinquième colonne, les profiteurs. Les gens votent sans passion, sauf peut-être à l'extrême droite. Ils font leur devoir comme on allume le poste le soir, parce qu'il faut bien faire quelque chose. Parallèlement, depuis plusieurs années, la désobéissance civile se développe, tout comme des pratiques d'action directe qui, précisons-le, n'impliquent nullement le recours systématique à une forme de violence quelconque. On retrouve là des formes de conflictualité qui avaient cours largement dans la décennie qui a suivi 1968. Certains imaginent, à travers leur lutte, d'autres façons de vivre et produire, bousculent les conventions, imaginent, dérangent le ronron de la démocratie représentative. C'est balbutiant, polyphonique, oui, tant pis. Ou plutôt, tant mieux. La justice est indépendante et elle fait bien son travail. Elle punit les faibles pour leur apprendre les bonnes manières et indiquer aux autres le chemin à ne pas suivre. La contestation sociale ne saurait entraver la bonne marche des affaires. Les camarades socialistes, Valls et Macron, peuvent dormir sur leurs deux oreilles. L'ordre règne, Jaurès sent le formol, et les confédérations syndicales ne semblent guère disposées à faire autre chose que de la condamnation morale. Jusqu'à quand? Telle est la question.
Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas. Mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo todo el alba. Mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerto en punto cuando sean las seis. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás. Vamos yendo, llega el día, no llores.
Yeah.
moriré en Buenos Aires. Será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen, me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber, llegará tancamente mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto cuando sea.
On parle beaucoup des quelques dizaines d'agités.
Nouvelle Donne Vieille Rengaine.
Qui ne travaillent pas.
L'actualité.
Qui empêche les autres de travailler.
Depuis 2014, l'Inde a hérité d'un nouveau Premier ministre. Narendra Modi est le prototype même de l'homme d'appareil. Lentement mais sûrement, il a gravi tous les échelons de son parti, le BJP, le Parti du Peuple Indien, jusqu'à en devenir une des figures majeures au début du présent siècle. Il doit sa notoriété à ses talents de tribun, à sa capacité à capturer l'attention des masses hindoues avec ses envolées lyriques nationalistes et anti-musulmanes. On l'a souvent accusé de jouer avec le feu, voire même d'allumer les incendies intercommunautaires dans son bastion du Gujarat, un état situé à l'ouest de l'Inde qui a subi une longue influence musulmane, même si sa population est à 80% hindouiste. Son élection à la tête du pays n'est pas seulement due à son nationalisme teinté de xénophobie, mais également à sa posture d'homme moderne, dynamique et libéral. Modi n'a jamais caché qu'il souhaitait faire de l'Inde une puissance industrielle, un nouvel Eldorado pour les multinationales du monde entier, un nouvel atelier du monde capable de supplanter la Chine au jeu mortifère du moins-disant social. Car voyez-vous, le travailleur chinois devient de moins en moins compétitif à force de revendiquer. Alors, en Inde, en Birmanie, au Vietnam et ailleurs, on espère capter l'entrepreneur soucieux de maintenir son taux de profit en lui offrant des zones franches qui sont autant de zones de non-droit social et syndical. L'Inde a des atouts, notamment une population jeune, mais elle a surtout des graves carences. Si 7 Indiens sur 10 ont moins de 30 ans, bien peu sont formés et aptes à occuper les potentiels postes dans l'industrie. L'Inde, c'est avant tout un pays dont l'économie est boostée par le secteur tertiaire, qui compte pour les 2/3 de son produit intérieur brut, mais un secteur tertiaire très fortement centré sur l'informatique et ses dérivés. L'Inde, c'est avant tout un territoire où règne massivement le secteur informel, où l'essentiel de la population survit avec des petits boulots, des petits salaires et pas, ou peu, de protection sociale. L'Inde est un territoire où les campagnes ont été abandonnées à leur sort ou confiées aux soins des géants de l'agrobusiness. L'Inde, c'est aussi un pays fragile avec des banques qui fleurent bon les prêts toxiques. Mais cela n'est pas de nature à effrayer Modi. Il clame bien haut que ce qu'il a fait du temps où il régnait sur le Gujarat, il peut le refaire pour le pays tout entier. Car avant de devenir le premier ministre de la République indienne, il a dirigé le Gujarat pendant plus d'une décennie avec, dit-on dans les milieux d'affaires, un franc succès. On a beau rappeler aux milieux d'affaires qu'un taux de croissance conséquent n'est pas forcément synonyme de franc succès, ils n'en ont cure. Qu'importe si la population du Gujarat, hormis les classes moyennes urbaines, a très peu profité de ce décollage économique, que la misère demeure endémique, que la malnutrition frappe massivement et que le système scolaire et de santé demeure déficient. L'important, c'est le taux de croissance. Quelles sont donc les recettes miracles appliquées par Modi pour sortir le Gujarat de l'ornière durant ses mandats? Elles furent simples et tiennent en une formule: donner de la liberté au business. Donner de la liberté au business signifie s'en prendre au droit du travail là où il existe, et à ceux qui le défendent, en les menaçant physiquement, voire en les liquidant. On ne compte ainsi plus les agressions dont furent victimes syndicalistes et autres défenseurs des droits humains. Donner de la liberté au business signifie abaisser le taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés, autrement dit, pratiquer une politique de dumping fiscal. Donner de la liberté au business signifie vendre au privé les secteurs encore nationalisés. Cela concerne aussi bien les ports que les chemins de fer ou le secteur de l'électricité. C'est une façon de rompre avec le modèle de développement jusqu'alors en cours en Inde où l'État était dirigiste et interventionniste. Donner de la liberté au business signifie aider financièrement les entreprises qui souhaitent se développer, car le big business, tout libéral qu'il est, adore l'argent public autant que les déductions fiscales et les exonérations de charges. Donner de la liberté au business équivaut à lui permettre d'exploiter la population sans être gêné par une législation pesante et somme toute punitive à l'égard de ceux qui osent entreprendre. Évidemment, donner de la liberté au business a des conséquences parfois fâcheuses. La corruption, déjà forte et structurelle, a retrouvé de la vigueur. Et militer contre la corruption au Gujarat est un acte courageux qui coûte parfois la vie. D'ailleurs, Modi s'est empressé de transformer les organismes de répression de la corruption, jadis indépendants, en structures soumises directement au pouvoir. Et aux dernières nouvelles, la corruption aurait régressé. Le miracle indien à ses laissés pour compte. Ce sont ces centaines de millions de paysans qui croupissent dans la misère et qui ont vu le gouvernement Modi remettre en question les programmes sociaux des gouvernements précédents, notamment un dispositif de type RSA destiné à donner du pouvoir d'achat dans les zones rurales pour y stimuler l'économie. Il ne serait guère surprenant que le pays s'embrase ça et là dans les prochains mois, la croissance n'étant guère au rendez-vous, au contraire de la frustration sociale.
Lolo.
Nouvelle donne, vieille rengaine.
Quando ti ricoverano.
Les notes de lecture.
Porta le armi.
À l'heure où, pour contrer le péril djihadiste, le socialisme de gouvernement instaure l'état d'urgence, il est bon de lire le livre de Leslie G. Wood, paru chez Lux, « Mater la meute, la militarisation de la gestion policière des manifestations ». Cette lecture est judicieuse en ce sens qu'elle nous rappelle utilement que la technicisation du maintien de l'ordre est une tendance lourde des démocraties contemporaines depuis une vingtaine d'années, et qu'elle est due davantage à la contestation sociale radicale de l'ordre néolibéral du monde qu'à la montée d'un péril terroriste à barbe et fatwa. Il n'aura échappé à personne que la mise au rancard ou l'effritement des différents filets sociaux de protection a réduit la capacité des États à répondre aux revendications portées par les mouvements sociaux dans un contexte de crise économique mondiale. Parallèlement, au démantèlement de l'État social a répondu le développement de l'État carcéral, autrement dit, la pénalisation du pauvre et de ses comportements déviants. Pénalisation des classes populaires, mais également criminalisation de celles et ceux qui refusent l'ordre capitaliste du monde et sa logique mortifère pour les exclus de la mondialisation. La sociologue et militante Leslie G. Wood s'est donc penchée sur le berceau sécuritaire nord-américain. Elle énumère toutes les nouvelles armes mises à disposition des forces de l'ordre pour contenir et maîtriser les manifestants. Lacrymogène, taser, gaz poivre, grenades incapacitantes, canons à eau, mais aussi les nouvelles tactiques à l'œuvre. Encerclement, rafle, infiltration, arrestation préventive, reposant sur un profilage des manifestants, etc. Nous assistons à une militarisation du maintien de l'ordre, à la robocopisation du CRS et à la volonté de neutraliser stratégiquement ceux qui descendent dans la rue pour y contester l'ordre établi. Elle souligne le développement du marché de la sécurité publique et privée, la prolifération des experts en tout genre comme notre Alain Bauer national. Elle note également la volonté de la police, en tant qu'institution, de tirer son épingle du jeu dans un contexte économique marqué par la compression des dépenses publiques. Moins le gâteau est conséquent et plus il faut se battre pour en conserver une bonne part. La culture du résultat ne connaît pas de frontières. Les organisations policières sont donc en quête de légitimité et de ressources engagées dans la défense de leur pouvoir à l'intérieur d'un système instable. C'est tout cela qui concourt à neutraliser stratégiquement la dissidence sociale parce que celle-ci est perçue comme une menace pour le statu quo. Le hasard a voulu que je lise, parallèlement à cet ouvrage de Leslie G. Wood, le livre excellent que Samuel Hayat a consacré à la révolution de 1848 en France. Une révolution qui naît en février et meurt en juin. Une révolution qui naît et meurt sur les barricades et dans l'odeur de la poudre. En février, le peuple de Paris joue un rôle fondamental dans la chute de la monarchie de Juillet et la proclamation de la République. En juin, sa liquidation physique par la bourgeoisie parvenue au pouvoir grâce à lui signe la mort d'une certaine idée de la République. Car en 4 mois, 2 camps se sont affrontés par les mots, par la plume, puis par les armes. Ceux qui considèrent que la République est un régime et ceux qui considèrent que la République est un projet révolutionnaire. Les premiers célèbrent les urnes et l'électeur roi, délié, libéral. Les seconds célèbrent l'action de classe et le travailleur citoyen, bien conscient que la République qui émerge est entre les mains de la nouvelle aristocratie, celle de l'argent. Samuel Hayat écrit « Les journées d'émeute du 23 au 26 juin 1848 constituent une rupture dans l'histoire de l'idée de République au XIXe siècle. Elles marquent l'événement fondateur de la République comme règne de l'élection et parallèlement le refoulement voire la forclusion d'une certaine interprétation de la République. » Je ne sais si Leslie G. Wood considérerait que les répressions féroces des 48ards ou des communards de 1871 sont des formes de neutralisation stratégique, mais osons le parallèle. En 1848 comme aujourd'hui, il y a deux idées fortes qui sont portées, défendues par le pouvoir en place. La première est que ce n'est pas la rue qui doit gouverner, mais la représentation nationale. La seconde est que la seule légitimité est celle qui sort des urnes, quand bien même le jeu électoral n'intéresse qu'une partie de la population, quand bien même l'électeur est à 100 lieues de l'idée que s'en faisait le vieux Thucydide. Je cite « Un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile ». Aujourd'hui, dans nos démocraties, la manifestation comme la grève sont présentées par les décideurs et nombre d'acteurs comme des formes normales, traditionnaires, mais foncièrement has-been de l'expression politique et sociale. Ils leur préfèrent le jeu parlementaire et la négociation entre partenaires sociaux responsables à la représentativité sanctifiée par les urnes. En d'autres termes, s'il est constitutionnel de descendre dans la rue, il n'est pas question que cet envahissement de l'espace public soit perturbateur et décisif pour la prise de décision, car ce n'est pas au mouvement social de dicter sa loi à la représentation nationale et au gouvernement. À chaque mouvement social d'ampleur, les mêmes mots reviennent dans la bouche de l'oligarchie qui gouverne. Une partie du peuple s'est exprimée dans la rue, elle fut entendue, mais sa voix ne saurait couvrir celle de la majorité silencieuse, comprendre le vrai peuple, celui qui travaille et vote. Il est temps que l'ordre revienne, afin de ne pas laisser l'expression citoyenne dégénérer. Il revient au gouvernement, fort de sa légitimité démocratique, de signer la fin de la récréation, et ce faisant, de remettre à leur place et de mater celles et ceux qui prétendent incarner le peuple. Je ne puis vraiment que vous conseiller de lire ces deux livres, Leslie G. Wood, Mater la meute, la militarisation de la gestion policière des manifestations, sorti par les éditions Lux en 2015, et Samuel Hayat, 1848, quand la République était révolutionnaire, citoyenneté et représentation, édité par Le Seuil en 2014.
Nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rembrouillent. Aïe la vache.
Nouvelle Donne, Vieille Rengaine, la revue de presse.
Pousse-toi. Dans la main, il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées.
Outre la lecture hebdomadaire de l'excellent Courrier international, qui regorge d'informations sur ce qui se passe au-delà de l'Hexagone et celle quotidienne du journal en ligne Mediapart, j'ai reçu, lu ou parcouru un certain nombre de journaux et de revues ces derniers temps. Je vous ferai la promotion ce soir du hors-série numéro 107 d'Alternative économique. Ce hors-série s'intitule « Quel monde en 2016 ?» Et ce n'est pas l'économie au sens strict qui est au cœur de ses préoccupations, mais plutôt le social, le politique et les relations internationales. En une quarantaine d'articles, le journal vous entraîne en Syrie pour y analyser la terreur djihadiste, au Nigeria dans les zones contrôlées par Boko Haram, en Grande-Bretagne où l'europhobie gagne de plus en plus en audience, en Ukraine où les oligarques tiennent toujours le haut du pavé, dans le Yémen en guerre, en Grèce et en Espagne, pays ballotté par la crise, éreinté par les politiques d'austérité. Cette revue s'intéresse également à l'Inde de Narendra Modi, au Congo de Kabila, au Brésil de Dilma Rousseff, une présidente de plus en plus décriée, sans oublier le Venezuela à bout de souffle et l'Équateur, où le gouvernement de gauche est vertement critiqué notamment par les groupes indiens. Les articles sont courts, synthétiques. Ils sont l'œuvre de spécialistes dont certains œuvrent au CERI, le Centre d'études et de relations internationales. C'est le cas de Christophe Jaffrelot, connu pour ses travaux sur l'Inde, le Pakistan et les conflits interreligieux. On y retrouve également Yann Mince qui dirigeait la défunte revue Alternative Internationale. N'hésitez pas à lire ce hors-série si bien sûr vous désirez mieux comprendre les tourments du monde. Dans le numéro 256 du mensuel communiste libertaire Courant Alternatif, vous pourrez lire un dossier consacré à l'écologie, avec notamment des articles sur la COP21 et le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais aussi des contributions autour du projet de grève sociale transnationale et un long article intéressant intitulé « Pistes pour un changement social porteur d'émancipation ». Bref, un sommaire alléchant, plus réflexif que centré sur l'actualité. Courant Alternatif n'est plus diffusé en kiosque, mais allez sur Internet, prenez contact avec eux ou rendez-vous du côté de la librairie Vent d'Ouest, car il y a des exemplaires en dépôt. Vous pouvez également les contacter, demander un exemplaire par exemple, en écrivant à oclibertaire, tout attaché, @hotmail.com. Bonne lecture. Thank you.
muro, sto muro. Un muro. Il muro. Giù. Giù.
Capitalisme, individu et société, feuilleton radiophonique sur l'histoire du mouvement ouvrier. Louis-René Villermé, chirurgien de profession, fait partie de ces intellectuels qui partent ausculter la misère sociale et aspirent à voir la bourgeoisie prendre à bras-le-corps le problème. En 1840, il écrit « Le tableau de l'état physique et moral des ouvriers dans les fabriques de coton, de laine et de soie ». Tableau évidemment très noir de la situation sanitaire et sociale de la population ouvrière et notamment des enfants. Je me permets d'en citer un très long extrait car il n'a rien perdu de son actualité tant sont nombreux encore les pays n'interdisant pas le travail des 10 enfants. Je cite « Ces durées paraissent bien longues, je pourrais dire excessives, et d'autant plus qu'elles sont semblables pour tous les ouvriers, n'importe leur âge. Aussi sont-elles une des causes, si même ce n'est la principale, de l'état de souffrance des enfants et d'une partie des adultes les plus pauvres. Il faut donc que les enfants, dont beaucoup ont à peine 7 ans, quelques-uns moins encore, abrègent leur sommeil et leur repos, de tout le temps qu'ils doivent employer à parcourir 2 fois par jour cette longue et fatigante route, le matin pour gagner l'atelier, le soir pour retourner chez leurs parents. Il faut voir cette multitude d'enfants maigres, avres, couverts de haillons, qui s'y rendent pieds nus par la pluie et la boue, portant à la main, et quand il pleut, sous leurs vêtements devenus imperméables par l'huile des métiers tombés sur eux, le morceau de pain qui doit les nourrir jusqu'à leur retour. Le remède au dépérissement des enfants dans les manufactures, à l'abus homicide qu'on en fait, ne saurait donc se trouver que dans une loi ou un règlement qui fixerait, d'après l'âge de ces ouvriers, un maximum à la durée journalière du travail. Il est difficile, en présence de nombreux et si graves témoignages, de ne pas croire à l'altération profonde de la santé de ces jeunes travailleurs et par conséquent à l'immense bienfait qui résulterait pour eux de l'adoption de la mesure législative dont il vient d'être parlé. Tel est le mal, tel est aussi le remède proposé. Mais ce dernier paraît être d'une application difficile, car on n'aperçoit pas d'abord comment on peut limiter la durée du travail des enfants sans limiter en même temps celle du travail des adultes auxquels ils servent fréquemment d'aide. D'un autre côté, réduire la journée d'un ouvrier, c'est réduire son salaire, et réduire son salaire, c'est souvent lui ôter les moyens de vivre. Presque tous ceux, et ils sont en grand nombre, qui cherchent dans le salaire de leurs enfants un supplément obligé à leur propre salaire, seront contre la mesure. Et d'ailleurs, il y a souvent dans l'industrie des temps de gêne pendant lesquels les fabricants doivent nécessairement, pour éviter une ruine certaine, et pour ne pas ôter tout moyen d'existence à leurs ouvriers, baisser les salaires, ou bien exiger pour le même salaire une plus longue durée de travail, et eux seuls sont juges dans ces cas. Mais des circonstances extraordinaires ne prouvent rien contre l'utilité d'une loi destinée à prévenir, selon les propres mots faits à la société industrielle de Mulhouse, le dépérissement effrayant de la génération qui se développe. Cette loi ou le règlement qui la remplacerait, qu'il me soit permis de le dire en terminant, devrait concilier des intérêts opposés, celui des fabricants, celui des ouvriers, et ne pas trop accorder à l'un de peur de nuire à l'autre. Il serait encore à désirer que l'on pût y faire entrer quelques articles favorables à l'instruction des enfants et surtout à leur éducation morale. C'est en rendant obligatoire leur assiduité à l'école que l'on peut le mieux résoudre le problème difficile de limiter leur emploi dans les manufactures jusqu'à un certain âge. Fin de citation. Le débat parlementaire qui s'ensuit en 1840 et 1841 est long et accroché. Pour Gay-Lussac, légiférer est une erreur. Je persiste à croire que le fabricant n'a pas autre chose à faire qu'à acheter la main-d'œuvre, et quand elle est achetée, il n'a qu'à en disposer loyalement et en bon père de famille qui doit être maître chez lui. Pour d'autres, si on limite le travail des enfants, il faudra embaucher plus d'adultes, les payer plus cher, et donc les coûts de production vont augmenter. L'entreprise va perdre des marchés, elle devra licencier. La loi serait donc contre-productive. Non, non, rétorque le rapporteur du projet de loi, Charles Dupin, qui, citant l'exemple anglais qui a légiféré depuis 1802, souligne que cet aménagement du temps de travail des enfants a fait croître la production. Autre élément pour refuser la loi, elle viendrait blesser la liberté individuelle, celle du père de famille, mais aussi écorner le pouvoir du chef d'entreprise puisque celui-ci ne serait plus le seul maître à bord, l'État interférant dans les rapports contractuels entre patrons et ouvriers. Ce qui pose problème, c'est bien l'intervention de l'État dans l'économie, même si Dupin parle d'une surveillance active sans être vexatoire, exercée par un service de contrôleur d'État. La loi est finalement adoptée. Son article 2 précise... les enfants devront, pour être admis, avoir au moins 8 ans. De 8 à 12 ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de 8 heures sur 24 divisées par un repos. De 12 à 16 ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de 12 heures sur 24 divisées par des repos. Ce travail ne pourra avoir lieu que de 5 heures du matin à 9 heures du soir. L'âge des enfants sera constaté par un certificat délivré sur papier non timbré et sans frais par l'officier d'état civil. Eh oui, manquerait plus que les patrons payent un timbre et des frais. En revanche, le texte ne prévoit pas la création d'un service spécialisé pour ce contrôle. Il revient donc au préfet de créer des commissions d'inspecteurs bénévoles recrutés parmi d'anciens magistrats, des médecins, des officiers, en gros des notables, qui n'auront ni les moyens ni peut-être la volonté de faire appliquer cette loi, malgré la modestie des contraintes qu'elle implique. Bref, cette loi fut votée, mais non appliquée. 30 ans plus tard, une loi interdisant le travail des enfants de 13 ans sera enfin adoptée. Voilà, c'était Nouvelle Donne Vieille Rengaine. À bientôt sur Alternante FM.